Alors, nous sommes ici, donc, dans le cadre de la mesure 32 du plan Alzheimer. Donc, initialement, la mesure 32 du plan Alzheimer était une formation à l'épidémiologie clinique. Et c'était une idée de Joël Ménard que de former l'ensemble, enfin en tout cas une masse critique suffisante de soignants à la recherche clinique, à l'épidémiologie clinique, de façon à ce que il y ait un nombre suffisant de personnes pouvant participer à des études de recherche. On sait par exemple que la recherche française dans le sida est une des meilleures du monde. Et elle est une des meilleures du monde parce que il y a 800 personnes en France, médecins, qui s'occupent du sida. 800 personnes. Et toutes ces personnes sont formées à l'épidémiologie clinique. Toutes ces personnes lisent la littérature scientifique et sont capables de participer à une recherche qu'ils travaillent à Bayonne, à Pau ou à Bordeaux. On a aussi cette manière de penser dans le cancer, mais à un degré moindre. On peut penser que dans le cancer, c'est à peu près 5 à 10 000 personnes qui s'occupent du cancer, et un cinquième participe à des protocoles et est capable de lire la littérature scientifique régulièrement. Dans la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés, on est très loin de ça. Nous sommes à peu près, dans les consultations mémoire, environ 1500 médecins et 1500 soignants, ce qui fait à peu près 3000 personnes entre les consultations mémoire et puis, disons, les services de gériatrie et de neurologie. Et sur ces 1500, 200 seulement participent à des études de recherche clinique. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème parce que, même s'il y a de l'argent, et actuellement il y a de l'argent pour la recherche, nous n'arrivons plus réellement à utiliser tout cet argent et à faire tous les protocoles. Par exemple, l'année dernière, dans le PHRC, il y avait 5 millions d'euros qui étaient proposés au financement dans le PHRC, eh bien 3,5 millions seulement ont été utilisés. Il n'y avait pas assez de bons projets. Même des projets moyens auraient pu être prêts. Mais il n'y avait pas assez de bons projets pour pouvoir participer nous-mêmes. Nous sommes à saturation. Et on est obligé de dire non à nos collègues. Parce que nous n'en pouvons plus, on ne peut pas fournir. Or, il y a, dans toutes les consultations en mémoire, un vivier de malades, un vivier de médecins, prêts à fonctionner pourvu évidemment qu'on leur en donne les moyens. Mais les moyens, on peut les obtenir avec le financement. Mais encore faut-il qu'il y ait un état d'esprit, recherche, évaluation, qui se mette en place. Alors comment y arriver? Ce que nous avons proposé à l'ISPED, c'est de passer par la formation à la lecture critique pour développer l'épidémiologie clinique, la recherche clinique. Passer par la formation à la lecture critique, et puis ensuite la lecture de la littérature scientifique. Alors quel est notre pari? Mais on peut le retrouver, ce pari, dans le modèle de décision de la MMF, c'est-à-dire la médecine fondée sur les faits. Tout est là-dedans. Comment fonctionne la décision médicale? Pour prendre une bonne décision médicale, que ce soit en matière de diagnostic, de pronostic, de thérapeutique ou de recherche de cause de la maladie, eh bien, on se base en fait sur trois choses. La première, évidemment, c'est l'expérience du praticien et du clinicien. Ça pèse évidemment énormément. Qui comprend sa formation du praticien et qui comprend son expérience de la prise en charge des malades au quotidien. Ça, c'est ce qui pèse probablement le plus. Mais il y a aussi les attentes du patient, les valeurs du patient, qui pèsent énormément. Et puis à côté de ça, les faits scientifiques. Les faits scientifiques qui vont s'accumuler au cours du temps et qui vont faire évoluer la prise en charge des malades. Un nouveau traitement, une nouvelle méthode diagnostique, de nouveaux biomarqueurs, une nouvelle technique de pronostic, une nouvelle technique de prise en charge, et puis une nouvelle cause de maladie qui va déboucher sur un nouveau traitement. Donc ces faits scientifiques, ils devraient influencer normalement, énormément, la prise de décision. Dans la réalité, les faits scientifiques nouveaux influencent très peu notre manière de faire. Eh bien, ne pas avoir accès à l'information scientifique, c'est se passer d'une connaissance, ce qui est un progrès. Évidemment, il faut le confronter. On ne va pas vivre qu'avec ça. Il faut le confronter avec notre expérience et avec les valeurs du patient. Mais c'est vraiment absolument indispensable d'en tenir compte, au moins en partie. Tout n'est pas science, évidemment. On est bien d'accord avec ça. Et d'ailleurs, tout n'est pas complètement démontrable. Mais il y a énormément de choses qui sont démontrables. Et le problème, c'est que lire la littérature scientifique, analyser la littérature scientifique, ça t'apprend pendant nos études, on le fait un petit peu, on le fait au moment de notre thèse, on le fait au moment d'un mémoire. Mais si vous ne vous entraînez pas, c'est terminé. Vous perdrez ces schémas qui permettront justement d'intégrer l'effet scientifique dans votre quotidien. Bon, donc alors les compétences nécessaires à la pratique de la médecine fondée sur les faits et donc à la lecture critique, c'est d'abord être capable de lire et de comprendre. Alors en face de ça, évidemment, vous avez la langue. Et c'est évidemment un obstacle, on est bien conscient. Hein? Mais ça, c'est un drame de la littérature scientifique française, c'est que vous n'avez malheureusement que très peu d'articles de qualité qui soient publiés en français. Dans Bibliodémence, c'est 1 sur 100 qui est sélectionné. 1 sur 100. 1 sur 100. 99 sont en anglais. Et donc, si on veut vraiment avoir des innovations, vous savez, les deux articles dont j'ai parlé au début, qui étaient ces articles de sciences humaines, pourtant, bah, ils sont en anglais. Hein. Toutes les innovations en sciences humaines, en prise en charge non médicamenteuse, tout ça est en anglais. Il n'y a pas un papier en français. Donc si vous ne voulez, si vous n'êtes pas capable de lire les études randomisées d'intervention non médicamenteuse en anglais, bah, vous n'aurez pas accès à cette littérature. Donc il faut faire l'effort de la langue et on ne peut pas transiger là-dessus. Alors on n'a pas besoin de parler anglais. Il faut penser quand même que à peu près 50% des mots d'anglais viennent du français. Et surtout l'anglais technique. Surtout l'anglais technique. Moi je me suis aperçu de ça il n'y a pas si longtemps. Donc quand je fais une conférence en anglais, je suis mauvais en anglais. Mais quand je fais une conférence en anglais et que je ne trouve pas le mot, je donne le mot français avec une prononciation anglaise. Et ça marche. Et ça marche. Donc, vous voyez que ce n'est pas un obstacle majeur. Ensuite, c'est extraire l'information clé. Ça, c'est une technique. Et ça, il faudra vous l'apprendre. Lire, comprendre, apprécier la qualité. Là aussi, il y a des éléments techniques à apprendre, à se remettre. C'est des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez faites quand vous avez écrit au moins votre thèse ou votre mémoire pour ceux qui sont psychologues. Mais apprécier la qualité, vous l'avez fait au moins une fois dans votre vie. Parce que quand vous avez quand même écrit votre thèse, vous avez bien fait une lecture critique, vous avez extrait l'information clé des articles et vous en avez apprécié la qualité, vous dire est-ce que ça méritait d'être dans ma thèse ou pas. Donc vous avez fait cet exercice-là une fois dans votre vie. Vous avez appris à le faire, apprécier la pertinence. Et puis conclure pour tirer l'information clé qui va vous servir pour vos patients. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est très important, c'est effectivement que la lecture critique, avant tout, elle sert à répondre des questions sur les patients, permettre d'avoir ensuite la recherche des mêmes meilleures données disponibles, l'évaluation critique des données et l'utilisation des données utiles pour le patient. Par exemple, vous devez vous poser la question, est-ce que on vient de me proposer de faire intervenir des bénévoles dans la maladie d'Alzheimer, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'adhère à ça? Et je vous ai donné la réponse. Oui, il faut le faire. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai même pas appliqué ça moi-même. Mais bon, d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile de dire non, il me faudrait une deuxième essai. Négatif, j'ai expliqué, pour ceux qui arrivent, initialement, que la littérature scientifique, ce n'est pas uniquement des progrès dans la connaissance physiopathologique et thérapeutique médicamenteuse de la maladie, mais c'est la connaissance de toute la maladie, sur toutes ses facettes, de l'anthropologie à la sociopsychologie, à la biochimie, à la thérapeutique et à tout. C'est tout qui peut être scientifique, hein, et à l'éthique même, puisqu'on a parlé d'une étude éthique avec intervention de la vidéo. Alors évidemment, donc il y a des difficultés, la difficulté de la langue, la difficulté d'accès au support, hein, c'est parfois pas facile d'accéder à un article qui est publié dans une revue, par exemple il y a une revue qui est remarquable et qui fourmille de papiers sur la prise en charge au quotidien des malades d'Alzheimer, c'est Aging and Mental Health, c'est remarquable, c'est inaccessible. Il n'y a qu'à l'hôpital qu'on peut, enfin à l'hôpital, à l'université, enfin disons que dans des centres spécifiques qu'on peut avoir accès à cette revue. Donc c'est un vrai problème. On manque de temps, ça c'est l'élément manifeste, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de temps. Et puis, on manque de disponibilité d'outils. Je crois qu'il y a une chose qui n'est pas là, c'est qu'on manque d'entraînement, on ne lit plus. Catherine Thomas-Antérion utilise Bibliodémence pour travailler avec les consultations mémoire, et elle réanalyse avec les gens des consultations mémoire, comme vous, les articles qui ont été déjà analysés et sélectionnés par Bibliodémence. Peut-être que Sophie va s'y mettre aussi pour revenir sur ces articles, si vous voulez. Hein, si lors des réunions de consultation mémoire, elle reviendra sur les quelques articles qu'on a été pour rentrer un peu dans le détail. Un peu comme on va faire aujourd'hui sur les deux papiers qui vont être analysés. Catherine Thomas-Antérion a déjà commencé parce que c'est une des bonnes lectrices. Et elle a fait une première analyse pour savoir qui lisait la littérature scientifique régulièrement, et parmi les 20 personnes qui étaient là, une seule lisait de temps en temps la littérature scientifique. Une seule sur 20. Et ensuite, elle a demandé, mais alors, est-ce que vous lisez des journaux, tout simplement, des articles de fond dans les journaux? Vous savez combien lisez les articles de fond dans les journaux au moins une fois par semaine? Combien? 18%. 18%. Alors, je ne sais pas si en Aquitaine, c'est pareil. Mais les gens ne lisent plus d'articles de fond, même dans les journaux. On s'informe par la télé, par Internet, on zappe l'information, on prend les analyses secondes, on ne lit plus l'article de fond. On écoute une émission, ça oui, éventuellement sur France Culture, ou sur ça on écoute les choses, surtout dans les embouteillages finalement. C'est essentiellement là qu'on écoute les choses, mais sinon on ne va plus à l'information de fond. On va à l'information d'analyse seconde. Et c'est une raison de plus pour faire que cette analyse seconde elle soit nickel. Mais pour qu'elle soit nickel, cette analyse seconde, c'est-à-dire comme ce que fait Bibliodémence finalement, il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui en fassent partie. Parce que nous savons ce que nous avons besoin, en tant que chercheur ou en tant que soignant d'un CMRR. Mais on n'est pas du tout sûr d'interpréter vos besoins. On le pense, disons qu'à 80% ils se superposent. Mais il y a certainement d'autres choses, plus terre à terre, d'autres questions plus terre à terre peut-être que vous vous posez, ou au contraire plus compliquées, auxquelles on ne pense pas. Et si vous ne participez pas, ou au moins un sous-ensemble d'entre vous ne participez pas à ce brassage de la connaissance, on passera à côté et on n'aura pas un système qui répond à un besoin. Il faut aussi des compétences méthodologiques, en tout cas les revivifier, parce que ces compétences vous les avez eues, mais vous les avez perdues. Si vous avez passé le concours de médecine, vous avez eu au moins 14. Et donc vous avez été très bon en statistique, par exemple. Donc c'est quelque part dans votre cerveau. Ça n'a pas été oublié volontairement. Enfin, Hélène Amiéva n'est pas là, mais je ne peux pas penser qu'on puisse détruire ça. Il faut aller le chercher quelque part. Je ne sais pas comment le réactiver, mais enfin bon. Alors ce qu'on a prévu, c'est en pratique vous présenter deux articles que vous avez normalement lus.